Dans cette transformation si vaste, elle a pour aiguillon le souvenir des maux passés et la contagion de la civilisation européenne. C'est beaucoup, est-ce assez ? Extrait de l'ouvrage d'Hippolyte Taine, Voyage en Italie, en 1864.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
Voici déjà des semaines que j'ai proposé aux auditrices et aux auditeurs de Radio Présence des chroniques de l'histoire consacrées à l'Italie. Nous sommes partis de la fin du monde romain et de la période ostrogothique, et nous sommes arrivés jusqu'à la République italienne après la Seconde Guerre mondiale. Pour cette dernière émission, je vous propose une réflexion sur l'Italie d'aujourd'hui. Essayez de voir un peu les questionnements qui peuvent se poser lorsqu'on regarde ce pays depuis la fin du XXe siècle et jusqu'en 2026. D'abord, la première chose qui frappe l'observateur, c'est indéniablement le changement de cadre politique. Alors soyons précis, il n'y a pas eu de changement de constitution en Italie. La démocratie italienne fonctionne toujours selon la constitution républicaine de 1947. Mais on parle de première et de seconde république parce que au début des années 1990, pour être précis en 92-94, une grande affaire politique a littéralement ébranlé, puis finalement fait écrouler, le vieux système politique italien. C'est l'affaire Manipolite, main propre, où effectivement, pour des questions d'enrichissement personnel pour quelques-uns, mais très peu nombreux, mais plutôt pour des problèmes de financement des partis politiques, eh bien, le vieux monde politique s'est effondré avec la fin de la démocratie chrétienne, la fin du Parti communiste, qui est devenu le Parti démocratique de la gauche, la fin aussi de ces petits partis que l'on appelait laïcs et qui avaient fait les majorités parlementaires en Italie, le Parti socialiste, le Parti libéral, le Parti républicain, le Parti social-démocrate. Mais face au vide, la politique cherche toujours à le remplir. C'est donc pour cela que vous avez vu apparaître Silvio Berlusconi sur le paysage politique italien. Celui-ci était, jusqu'au début des années 90, un grand entrepreneur qui avait placé ses pions aussi bien dans l'immobilier que dans les assurances, que dans les maisons d'édition et que dans le football, puisqu'il était un très grand supporter du Milan AC. Mais à partir de 1993, il décide de franchir le pas et il va remodeler le système politique italien. Il va créer Forza Italia, un groupe politique qui va lui permettre de gagner les élections de 1994. Certes, il perd en 1996, mais il va gagner à nouveau les élections en 2001, puis en 2008. Il va pendant une bonne vingtaine d'années dominer le paysage politique italien. Lorsqu'il est obligé de démissionner en 2011, le paysage politique italien connaît une autre modification avec l'apparition d'une formation contestataire, Cinque Stelle, les cinq étoiles, qui vont bousculer le paysage politique italien, au point qu'il y aura même un gouvernement dirigé par Cinque Stelle en 2018. Mais évidemment, si l'on regarde aujourd'hui la situation politique, c'est Giorgia Meloni qui est sur le devant de la scène. Parcours quelque peu étonnant de cette jeune femme, parce qu'elle avait débuté dans les jeunesses du MSI, du mouvement social italien, puis de l'Alliance nationale, c'est-à-dire un parti de tradition néo-fasciste. Mais elle avait ensuite décidé de voler, si j'ose dire, de ses propres ailes, et elle avait fondé Fratelli d'Italia. Mais Fratelli d'Italia, en 2013, ne représente que 4% des voix. Elle est élue au Parlement, mais elle est très loin du pouvoir. Mais les crises économiques, l'instabilité politique, ont fait que le corps électoral italien lui a permis, en coalition avec la Ligue du Nord et avec Forza Italia, de gagner les élections de 2022. Et depuis 2022, elle est présidente du Conseil d'un gouvernement que l'on peut dire à la fois d'une droite libérale, pour Forza Italia, d'une droite conservatrice, avec la Ligue, et d'une droite à la fois conservatrice et nationaliste, qu'est Fratelli d'Italia. Il n'y a pas véritablement un danger fasciste en Italie, même s'il y a des groupes néofascistes, mais il y a un gouvernement qui est arrivé par les urnes et qui, peut-être, repartira tout simplement par les urnes. Il faut regarder aussi maintenant économie italienne. On dit aujourd'hui qu'il y aurait un miracle économique italien, un nouveau miracle économique, cette expression qui avait été utilisée dans les années 1950-1960. Et donc, ce miracle, quel est-il ? Il est en fait vrai sur un point. Le déficit budgétaire italien a diminué. Il n'est plus que de 3,1. D'autre part, il y a un dynamisme du commerce extérieur grâce aux entreprises petites et moyennes. Mais par contre, il y a des problèmes non résolus. La croissance en 2025 n'a été que de 0,5% au lieu de 1,5% sur la zone euro. L'inflation reste importante à 1,7% par rapport à 1,1% en 2024. Donc, c'est un miracle tout relatif. Par contre, ce qui n'a pas bougé en Italie, c'est le festival de San Remo, où en 1958, on écoutait Volare.
Volare. Oh, cantare. Oh, nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
Essayons maintenant de nous pencher sur la société italienne. Elle avait connu des bouleversements importants après la Seconde Guerre mondiale. Fini l'Italie des campagnes. Il y avait eu une progression très forte du secteur industriel et du secteur tertiaire, et les grandes villes italiennes avaient connu une expansion extrêmement importante. L'autre phénomène qu'il faudrait voir depuis clairement l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'on pourrait appeler la sécularisation de la société italienne. Je m'explique. Nous sommes dans un pays de tradition catholique. La première enquête sociologique sur la pratique religieuse en Italie, datant de 1956, nous montre que 69% des Italiens seraient pratiquants. Mais depuis 1956, il y a eu une baisse constante et régulière. Aujourd'hui, on se situerait sans doute aux alentours des 15% d'Italiens qui pratiquent, ce qui, à l'échelle de l'Europe occidentale, est un chiffre relativement important. Mais la sécularisation, c'est-à-dire le détachement d'une bonne partie de la société italienne des valeurs défendues par l'Église, se retrouve à quelques moments clés de l'histoire publique italienne. Par exemple, en 1974, 59% des Italiens, par référendum, acceptent l'idée qu'il y ait une loi sur le divorce. Et des catholiques ont d'ailleurs sans doute voté pour cette loi. En 1981, deuxième grand moment, c'est effectivement la loi sur l'avortement, où là, 69% des Italiens se sont prononcés en faveur d'une loi sur l'avortement, avec néanmoins, dans la deuxième question qui leur a été posée par ce référendum, la possibilité d'élargir de 12 à 16 semaines la durée de l'avortement, les Italiens ont finalement refusé d'élargir ce temps à 16 semaines. Et puis, cette société, et ça c'est un problème extrêmement sérieux pour aujourd'hui, connaît une chute très forte de la natalité. En 2025, les Italiens ne faisaient plus que, excusez-moi le chiffre un peu barbare, 1,18 pour 1000 enfants. C'est-à-dire qu'on est largement en dessous des deux qui permettent un simple remplacement des générations. Les enquêtes sociologiques montrent que, en moyenne, le premier enfant pour une Italienne, est à 32 ans et demi. Et un quart de la population a plus de 65 ans. Il y a véritablement là un problème majeur. Car à ce rythme, et on voit mal la courbe s'infléchir, l'Italie va perdre de la population. On estime que d'ici 20 ans, il y aura 6 millions d'Italiens et d'Italiennes de moins. Donc, cette question démographique, elle est sérieuse et tout le monde en a conscience. Le gouvernement actuel aussi, mais à vrai dire, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a augmenté une prime pour les mères de deux enfants qui travaillent, mais la faisant passer de 40 euros par mois à 60 euros. À vrai dire, ce n'est pas grand-chose. Et il est probable que là, l'Italie soit obligée, et paradoxe pour un gouvernement qui voulait protéger le pays de l'immigration, de faire appel à des populations étrangères pour faire travailler une bonne partie de l'économie du pays. D'ailleurs, quand vous allez par exemple, et j'en témoigne personnellement, dans le Midi italien, eh bien on s'aperçoit que s'il y a des malheureux Africains qui sont en déshérence à Bari ou à Naples, vous les retrouvez bien souvent dans les campagnes pour ramasser les fruits et faire les vendanges. Donc c'est un pays qui va être très dépendant de populations venues de l'étranger. En tout cas, au terme de ces 3 mois passés en Italie, à vous analyser l'histoire de ce pays, j'espère que ça vous donnera envie d'aller voir ce formidable patrimoine et ce pays qui nous est si proche. Merci de votre attention.